etc.
Ouais.
Puis, c'est ça. Donc, puis j'avais une affection particulière aussi pour les médias. Moi, les médias, j'ai toujours trippé à faire du média. Ouais. Je rêvais de faire ça.
T'écoutais Marc Simonneau.
Ah, hey, mon Dieu, je m'endormais avec Claude Lavoie le soir, là, de 10h à minuit soir, ben quand oui. c'était lui qui était là. Je me souviens très bien de ça, de m'être endormi le radio tout bas à côté de mon lit, puis de m'endormir avec le snooze là, jusqu'à minuit. Même quand j'étais petit, là, j'étais probablement en 6e année, secondaire 1 ou 2, j'écoutais
la radio. On trippait sur le hockey à Québec, puis la majorité des gens de Québec prenaient pour les Nordiques de Québec. Il y en avait des différents qui étaient pour le Canadien de Montréal, puis il y en avait des encore plus différents, ce genre de beau-frère fatigant qui, lui, décidait de prendre pour les Bruins de Boston.
Ouais, ça, c'était moins commun à l'époque, par exemple, de voir des partisans des Bruins, là, mais puis des Leafs aussi, il y en avait un peu, mais tu sais, je veux dire, c'est ce qui faisait la beauté de la rivalité entre Canadiens et Nordiques. Tu sais, quand t'allais au Colisée, Canadiens et Nordiques, puis t'avais du monde, beaucoup de monde avec des chandails rouges sur le dos qui se levait puis qui fêtait autant que s'il était au Forum à Montréal. Là, ça commençait à être titillé un peu.
Ça nous fatiguait, mais d'un party de famille, tu sais, je veux dire, les gars s'ostinaient là, sur les Canadiens puis les Nordiques. C'était de toute beauté. Tu sais, pendant qu'on le vivait, on se disait, ouais, c'est assez particulier hein, que la chicane pogne entre les Canadiens et les Nordiques dans famille. Puis plusieurs années plus tard, ça fait partie de nos plus beaux souvenirs, alors qu'au moment même, c'est un peu négatif.
Ouais,
là.
Ouais. Ben écoute, moi, tu sais, je pense que j'ai rencontré Jean Béliveau là, à l'époque de la Marche Bleue.
Monsieur Jean Béliveau.
Monsieur Béliveau m'avait dit probablement la plus belle chose que quelqu'un n'aurait pas pu me dire pour résumer la situation. Tu sais, il m'a dit « La compétition n'a jamais tué personne. Elle te pousse à être meilleur. »
Exact.
Et c'est ce qui pousserait probablement une organisation qui s'appelle le Canadien de Montréal actuellement depuis, là, mon Dieu, nomme-le, là, depuis 98. Une équipe qui n'est pas très compétitive, là, qui ne se force pas trop non plus à l'être, qui l'a été à certains moments là, quand Kovalev était là. Je me souviens, l'époque d'Alak, Alak ou Price, là, souviens-toi, là, ça a été un sujet de discussion qui a été sur les ondes pendant longtemps. Mais...
De mémoire, il y a des gens qui avaient pris comme des plaques d'arrêt d'autobus là, puis ils avaient écrit Alak dessus.
Oui, parce qu'ils arrêtaient tout. C'est pour ça que ce gars-là a forcé probablement Carey Price à être meilleur parce qu'il y avait de la compétition entre ces deux gars-là.
On va y revenir à Jean Béliveau, si tu le veux bien. Oui. Mais moi, je veux savoir, ça a été quoi le déclic pour toi de partir cet événement-là, la Marche Bleue?
Le retour des Nordiques. Tu sais, le retour des Nordiques était dans les plans. Souviens-toi, il y a un monsieur Charest, à un moment donné, qui avait eu un projet.
Moi, Jean Charest, c'était pas lui.
Non, un autre monsieur Charest, Marc, je crois qu'il s'appelle, lui avait comme projet de construire un amphithéâtre coin, je pense que c'était dans le coin de la 40, si je me souviens bien,
oui,
Charest.
T'as raison.
Il y avait ce projet-là au début des années 2000, dans le coin de 2002, dans ce coin-là, 2002-2005, là, il y avait eu ce projet-là, puis il s'était fait revirer de bord, je me souviens plus l'histoire complète. Puis là, on commençait à parler là, du retour des Nordiques éventuels. Puis là, ben, il y a un monsieur Labeaume qui s'est fait élire. Puis Régis avait besoin de... Il avait besoin de projets, là, tu sais. Il avait besoin de projets. Oui, le 400e, Jacques Tanguy avait probablement œuvré énormément pour faire du succès, du 400e un succès.
Ouais.
Puis là, Régis, ben, il est arrivé avec le projet
d'avoir un amphithéâtre.
Puis là, tu sais, souviens-toi, le fameux T-shirt qui avait, s'était fait photographier à New York et qui était allé rencontrer Gary Bettman. Puis,
On gère les affaires.
C'est ça. Fait que Régis a probablement allumé cette flamme-là chez les anciens partisans des Nordiques. Puis j'en étais un de ceux-là, moi. Écoute, moi, quand Régis a dit au sortir là, d'un conseil de ville à Québec que là, il allait avoir besoin de l'appui de la population puis qu'il fallait que la population se lève pour l'aider justement à promouvoir ce projet-là de construction d'un amphithéâtre parce qu'un n'allait pas sans l'autre. Là. On s'entend qu'il n'était pas question que les Nordiques reviennent dans le Colisée de Québec alors qu'il se construit des arénas flambant neufs à travers la Ligue depuis plusieurs années. Donc, c'est là que j'ai saisi la balle au bon. Donc,
moi, mais tu te souviens-tu du moment précis où tu as dit « OK, c'est beau, je me lance »
Le lendemain matin.
Carrément.
Le lendemain matin, moi, je me suis mis à regarder les réseaux sociaux. À l'époque, en 2010, là, Facebook, Twitter, là, Twitter, c'était très, très récent en 2010.
Ça fonctionnait pas tant.
Non. Bien, ça fonctionnait, mais c'était plus un réseau social, tandis que là, c'est plus un réseau de saillir. On dirait que les gens saillissent là-dessus. Ouais. Fait que, à l'époque, c'était beaucoup plus ça. C'était un réseautage. Les gens même se rencontraient. Ils faisaient des meet-up dans le temps. Ouais. Je me souviens de ça. Donc, je me suis mis à regarder les réseaux sociaux le lendemain matin. Facebook, Twitter, il n'y avait rien qui se passait. Fait que j'ai pensé à mon affaire, puis j'ai regardé un peu le calendrier pré-saison du Canadien. Puis le Canadien venait jouer à Québec le 2 octobre contre les Islanders de New York. Et là, les yeux de la Ligue nationale de hockey allaient être rivés vers Québec, tu sais, on s'entend. Fait que là, je me suis dit, tabarouette, il y a du monde de Montréal qui vont venir.
Ça fait combien de temps pour te préparer pour cette fameuse marche bleue-là?
37 jours. 37 jours, donc je lance ce mouvement-là dès le lendemain, je pense...
Ta blonde, as-tu dit que t'étais fou?
Ben, après que ça ait été fait, elle me l'a dit, mais pendant, ça n'aurait pas été le moment, je pense. Fait que, mais...
Hey, 37 jours.
Ouais, 37 jours, fait que là... Tu sais, le lendemain matin, il y avait probablement 9 ou 10 000 personnes qui s'étaient déjà abonnées à la page de la Marche bleue.
Ouais.
D'ailleurs, il y a encore une quinzaine de mille personnes qui sont abonnées à cette page-là actuellement, qu'on entend, tu sais, je l'entretiens beaucoup moins qu'à l'époque.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. Donc là, ça a capté ça, les yeux de certains médias, dont certaines radios à Québec.
Radio, télé, tout le monde s'est intéressé.
Journaux, radio, télé. Puis là, ça a commencé à faire du bruit. Puis là, c'est venu aux oreilles d'André Ducharme, qui est recherchiste pour Guy Lepage, à Tout le monde en parle, qui a communiqué avec moi, puis on a fait Tout le monde en parle juste avant l'événement, donc le 26 septembre.
Mais je veux dire, t'avais pas de formation là, tu sais, pour t'exprimer en public. T'étais un gars qui était un businessman, tu faisais tes affaires, puis t'étais un passionné.
J'étais un employé en assurance à ce moment-là.
T'étais un employé. OK, t'avais pas ton entreprise encore.
Non, je travaillais dans un cubicule, là, plein de poussière, okay. À journée longue, du matin au soir. Puis
là, Tout le monde en parle, dit « Mario, on a besoin de toi ».
Yes.
Amène tes fesses ici.
Let's go, on fonce.
Puis comment t'as pris ça? Mettons, quand t'as raccroché, là.
Ben, écoute, et à toutes les fois qu'il y avait des annonces que je réussissais à rejoindre des gens, moi, les frères Stachny, là, de les réunir à Québec publiquement, c'était la première fois depuis qu'ils avaient joué pour les Nordiques ensemble,
ouais.
Là.
Ouais.
Fait que à toutes les nouvelles qu'il y avait, moi, je tombais en bas de ma chaise toutes les fois, mais je te le dis, là, je l'ai vécu comme dans un nuage, tout ça. Moi, c'est quand j'ai revu des images par après que j'ai commencé à réaliser que tabarouette, j'ai fait ça, là. Okay.
T'avais pas le temps de prendre conscience, non, de toute l'ampleur du mouvement.
Ça allait trop vite.
À ce moment, ça allait trop vite.
Ça allait trop vite. C'est, je pouvais pas digérer ça à chaque fois, parce que si je l'avais fait, probablement que ça aurait été un flop.
Puis t'avais-tu un sentiment d'imposteur? Tu pars ça, puis là, tout d'un coup, pouf, tout le monde en parle. Tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je me ramasse là? Pourquoi faut que je réponde à leurs questions? Pourquoi je mérite ça, moi, de me rendre là?
Bien, moi, je le prenais pas personnellement, okay. Yann. Moi, je le prenais pour la cause. T'sais. Moi, là, si ça avait été une entreprise ou encore une station de radio qui l'avait récupéré, ça,
ouais,
exemple, là, probablement que les autres stations de radio n'auraient pas embarqué. Les autres médias n'auraient probablement pas embarqué à la même hauteur, ouais, tu comprends? Donc, moi, je voulais un peu préserver ça. Je voulais conserver, je voulais le laisser pur, purement, okay, pour les partisans.
OK, mais le sentiment d'imposteur que je te parle, c'est un sentiment que moi, je ressens régulièrement quand un auditeur, ouais, vient me voir et me dit hey, « Yann, je t'écoute régulièrement, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça. » J'ai l'impression que je mérite pas ça. Je mérite pas que quelqu'un vienne me voir pour me dire « Hey, je t'écoute. » Des fois, je me parle à moi-même, j'ai de la misère à m'entendre, mais là, il y a un auditeur qui vient me voir et qui me dit hey, « Yann, je t'apprécie.
Ouais. »
D'avoir l'impression qu'on ne mérite pas ça, c'est ça, ce sentiment-là d'imposture. Puis je parlais avec P.Y. Laure, qui est un gars de Québec, qui,
oui,
fait maintenant carrière à Québec et Montréal. Ben oui. Puis lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il évoluait dans ce métier-là. Puis, mm-hmm, à chaque fois, il y a ce sentiment-là, quand les gens viennent le voir puis ils serrent la main, on a cette impression-là qu'on ne mérite pas nécessairement toute l'attention que les gens nous portent. Tu te ramasses, Tout le monde en parle, avec des gens que tu voyais régulièrement à télé,
mm-hmm,
que
ben
tu,
oui,
connais, t'es là.
Anne-Marie Lozic était là ce soir-là, c'était,
ah ouais?
C'était ça.
Tu devais dire, hein, que je fais ça, moi, là.
Ouais, j'avais le gros cave aussi, là, Mercier qui était là. Hey! Ça va! C'est capoté. Mais pour vrai, moi, je vais te résumer ça à un mot. La passion. Okay. Si t'es passionné de ce que tu fais,
ouais,
ça va te transverser. Puis ces gens-là vont le capter comme il faut. Tu sais, t'es pas un imposteur. T'es un vrai, t'es un authentique. Et ça, les gens vont le sentir, ça. Puis ils vont embarquer, ils vont te suivre avec toi. Si t'es passionné, tu sais, je veux dire, t'as peut-être l'impression d'être un imposteur. Pourquoi moi? Mais tu te dis, crème, je le fais avec passion, puis j'aime ça. Certain que t'as pas l'impression de travailler, Marceau, quand
non.
tu te présentes.
Moi, je m'amuse tout le temps, mais c'est une job 7 jours sur 7. Les gens ont l'impression qu'on travaille juste quand on jase à la radio, puis quand on dit des niaiseries, mais non, notre cerveau est tout le temps alerte sur les histoires qu'on pourrait raconter à nos auditeurs. Puis au travers de tout ça, il y a des jobs à faire avec les commerces qui veulent placer à ta station de radio, mm-hmm. dans ton show et tout ça. Faut jaser avec ces gens-là régulièrement. Pour les entretenir, pour faire en sorte que ces gens-là, s'ils te font confiance, tu puisses leur aider à faire de bonnes affaires. Mm-hmm. Mais le sentiment d'imposteur, j'ai l'impression, moi, que je m'en débarrasserai jamais. Puis je ne sais pas pourquoi.
C'est correct. C'est ce qui va te faire tenir, justement, la barre.
Ouais.
Je pense que c'est... Il y a toujours une petite adrénaline de toujours être à ton top. T'sais, tu ne peux pas te présenter en onde pendant 2 heures de temps, 1 heure de temps, puis être moche une journée.
Jamais.
Il faut tout le temps que tu sois à ton top. Ouais. Tu entres en scène.
Faut que la moyenne au bâton soit bonne.
Faut qu'elle soit excellente. Tu peux pas frapper, tu peux pas être blanchi pendant je sais pas, au moins une semaine de temps. Là. Tu peux pas jouer avec ça. Là. Faut que tu sois à ton top. Faut que tu ailles chercher toutes les ressources possibles. Puis moi, je pense que la passion fait de grandes choses. Quand tu es passionné puis que tu as le moindrement de talent, tu peux aller très loin avec ça.
Tout le monde en parle, c'était extrêmement suivi à cette époque-là. C'était autour de 2-3 millions de téléspectateurs. Là.
Non, le soir qu'on était là, nous autres, c'était la première de la saison de 2010-2011. Il y avait 1,6 million ce soir.
1,6.
Oui, de code d'écoute ce soir.
Mais le lendemain, ça a dû faire bang.
Le lendemain, là, c'est ça, on était dans le dernier droit vers la marche bleue.
Ouais.
C'est ce que moi, dans le fond, parce qu'eux autres, là, ce qu'ils voulaient, ils voulaient m'avoir après la marche. J'ai dit non. La condition pour laquelle je vais y aller, c'est avant la marche bleue. Parce que je voulais promouvoir l'événement pour qu'il y ait un maximum de personnes possibles qui puissent s'y rendre. Puis la seule condition qu'ils m'ont imposée, c'était d'amener un des frères Stachny. Puis le seul qui s'adonnait à être pas loin, bien, c'était Marianne, qui
oui.
est aujourd'hui malade, là, mais... Marianne a été probablement un père qui m'a aidé énormément là-dedans, dans cette aventure-là, qui m'a conseillé beaucoup avec ses grands mots. Mario, j'espère que tu vas bien ici, Marianne. Ce gars-là était d'un calme, mon Dieu, c'était désarmant. Ce bonhomme-là m'a marqué, pour vrai, là, de te retrouver le surlendemain que tu décides de faire un rassemblement sur les plaines d'Abraham, puis que...
Les frères Stachny sont là à cause de toi.
T'es assis en avant, mais là, c'est parce que Anton puis Peter, eux autres, ils n'étaient pas très proches, là, on s'entend, pour être courtisés. Donc, moi, je me suis présenté directement au club de golf chez Marianne pour solliciter, dans le fond... solliciter lui d'abord, puis ensuite, ben tu me vois venir là, avec mes grands sabots. Moi, Peter et Anton, ça me les prenait. T'sais, les frères Stachny, je pense que ça a été le cœur et l'âme de cette équipe-là, de cette franchise-là à Québec, pendant de 80 à 88, 9, jusqu'à ce que Peter parte, puis Marianne aussi. Marianne est allée jouer à Toronto. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que cet événement-là...
Mais tu as eu l'occasion de leur jaser.
Mais certainement, j'ai eu l'occasion non seulement de leur jaser, mais mets-toi à ma place, là. Yann, tu écoutes le hockey pendant que tu es jeune, puis tu as le numéro 26 dans le dos de Peter Stachny, puis tu as 3 frères qui jouent ensemble, puis à un moment donné, quelques années plus tard, tu te retrouves dans le salon d'un des 3 frères Stachny avec un shooter de vodka, puis tu trinques avec les 3 frères Stachny.
Ouais.
Ça, là, c'est des souvenirs que, tu sais, premièrement, jamais t'aurais osé imaginer ça, puis deux, c'est arrivé, puis j'arrive pas à le croire.
C'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui n'a pas entendu parler de la marche bleue, puis que t'arrives dans un party, puis c'est Mario Roy, tu commences à dire que t'as trinqué avec les frères Stachny, les gars vont dire, t'es un crisse de fou.
Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est pas du genre de discussion que j'ai non plus. Je me vante pas de ça. Puis d'ailleurs, je suis pas le gars de la marche bleue. Moi, je suis Mario Roy, un simple citoyen.
Mais il reste que c'est toi qui l'as initié, ça, cette fameuse marche bleue. Les 3 Stachny étaient là. Je t'ai rencontré Jean Béliveau. Mm. Comment était-il, Jean Béliveau?
Oh, Seigneur du bon Dieu. Ce gars-là a marié une femme de Québec. Hein, d'abord, il y avait beaucoup d'attachement pour Québec. M. Béliveau est décédé. Il est tombé malade là, pendant cette marche bleue-là. Il n'a pas pu venir à la marche bleue parce qu'il était malade. Et on a profité, pendant qu'on était à la Montréal, moi et Marianne, pour aller rendre visite à M. Béliveau. Puis ce monsieur-là avait tellement les gens de Québec, la ville de Québec à cœur. Si ce gars-là avait pu jouer pour Québec dans la Ligue nationale de hockey, il l'aurait fait. Puis Guy Lafleur aussi, là, d'ailleurs, en passant. Guy Lafleur, là, il y a eu...
Tous les partisans des Canadiens de Montréal veulent te tuer présentement.
Probablement, mais tu sais, ces gars-là... Mais
Jean Béliveau, c'était pas un vrai Canadien. Il aurait voulu toute sa vie être nordique.
Mais c'était un gars de Victoriaville, tu sais. Monsieur Béliveau, là, c'est, tu sais, Monsieur Jean Béliveau, tu sais, le monsieur qui prenait soin de signer des autographes, là, correctement et non pas comme un médecin avec des pattes de mouche.
Je suis en train de me dire, je pense que c'est toi qui m'avais appris ça du moment où tu étais à la radio. Tu avais dit que l'individu prenait le soin d'écrire son nom parce qu'il voulait que les gens puissent lire son nom.
Parce que, tu sais, fais signer des autographes par des artistes, des peu importe, des chanteurs, des guitaristes, n'importe qui, là, ils vont tous te griffonner quelque chose. Puis là, tu vas te dire, OK, celle-là, c'est laquelle, non? Celle-là, là, c'est laquelle? Puis... J'en ai eu des autographes, moi, parce que j'étais un grand fan. Les anciens nordiques étaient là. Et encore, là, aujourd'hui, je regarde des autographes et j'ai la misère à dire, OK, lui, c'est celle-là qui a signé. Mais Jean Béliveau prenait soin de bien écrire ça. Il prenait le temps aussi de parler avec le monde pour qui il signait des autographes. C'était un grand monsieur. C'était un leader dans cette équipe-là. T'sais, les anciens Canadiens vont vous le dire, là, qui ont joué avec Jean Béliveau. Il a été ambassadeur longtemps pour cette équipe-là, jusqu'à ce que Guy Lafleur prenne la relève de ça en 1985. Mais M. Béliveau était tout qu'un ambassadeur, pas juste pour les Canadiens, pour le sport en général.
C'est quoi les discussions que tu as eues avec lui?
Ah, simplement là-dessus, mais j'ai pas jasé longtemps avec lui. Là. Ça a été peut-être un petit 7-8 minutes, là.
Ouais, c'est 7 minutes de plus que tout le monde qui nous écoute présentement.
Ouais, mais la rencontre avec Guy Lafleur aussi, ça a été quelque chose. Ouais. Guy Lafleur, je l'ai rencontré probablement 3 ou 4 fois là, depuis que j'avais initié ça. Puis c'est ça. Moi, Guy Lafleur, je l'avais approché pour qu'il soit là à la Marche Bleue. Il n'a pas pu venir. Puis c'était à l'époque où est-ce que son fils Mark allait pas bien. Là.
Ouais.
Puis, je ne sais pas comment il va aujourd'hui, mais bref. Guy Lafleur jouait un match des anciens ici à l'amphithéâtre à l'ancienne Lorette, qui était récemment construit. Et Guy Lafleur était dans une chambre à part. Les anciens du Canadien étaient tous ensemble, mais Guy Lafleur était dans une autre chambre tout seul.
Okay.
Il avait besoin de passer du temps seul et il n'allait pas bien, Guy, à cette époque-là. Là. Lise Lafleur, sa femme... n'allait pas bien non plus parce que Mark il leur donnait du trouble énormément. Puis j'avais demandé à un représentant du Canadien si je pouvais parler avec Guy Lafleur. Il avait été le voir, puis exceptionnellement, il avait accepté de venir me rencontrer. Il avait pris la peine de me parler pendant probablement 3-4 minutes la première fois que je l'ai rencontré. Il m'a serré la main. Il y avait des engagements à l'extérieur. Il était, je pense, dans l'ouest du pays à ce moment-là pour le 2 octobre. Et je pense qu'il jouait un match des anciens où... Je pense que c'est des anciennes étoiles de la Ligue nationale là, à Edmonton avec Wayne Gretzky, entre autres. Puis il avait refusé, mais il m'avait souhaité bonne chance puis qu'il souhaitait ardemment le retour des Nordiques. Puis la preuve, c'est que le 25 septembre 2015, quand on avait fait l'ouverture du centre Vidéotron, Guy Lafleur était là.
Il était là?
Oui.
Et tu avais une discussion avec lui, j'imagine?
Encore.
Encore.
Ouais.
Mais ça doit être exceptionnel. T'sais. Dans les corridors, tu sais que tu vas arriver au vestiaire où Guy Lafleur est là, il est tout seul dans son vestiaire, et il te regarde, puis il te salue Mario.
Hey, boy, sérieusement, là.
Y avait-tu sa cigarette?
Non. Guy Lafleur fumait plus. Ben, je sais pas, peut-être que oui, mais moi, je l'ai jamais vu avec une cigarette dans le bec, là. Jamais, là. Mais en tout cas, bref, à ce moment-là, non, il fumait pas. Hey,
c'est pas... encore là, c'était une belle rencontre. Quelle était ta relation pendant la marche bleue? Quelle était ta relation avec le maire Labeaume?
La relation avec Régis Labeaume était très bonne pendant la marche bleue. Après la marche bleue, ça a été autre chose. Parce que, souviens-toi, à cette époque-là, il y avait une campagne électorale au fédéral.
Oui.
Souviens-toi du fameux...
les conservateurs.
La fameuse photo des conservateurs avec le chandail des Nordiques sur le dos, entre autres Mme Werner, M. Blainey. Et M. Blainé a été très, très gentil avec moi là-dessus. Et ils ont poussé énormément là, avec M. Harper pour que le fédéral puisse, dans le fond, fournir de l'argent.
Ouais.
Régis, c'est ce qu'il voulait. Il y avait une game politique là-dedans, il là, faut s'entendre. Régis, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à l'Hôtel de Ville. Et ça, c'était quand Luc Robitaille était venu à Québec. Il y avait eu une conférence à Québec ici. Et j'avais passé la journée avec Luc Robitaille. C'est une autre affaire, là, tu sais. Je me ramasse à l'Hôtel de Ville avec Régis. Puis là, moi, j'avais été faire un speech pour M. Blainé, justement, pour l'appuyer là-dedans. Et Jacques Demers était là aussi à cette époque-là, à Lévis, au Centre des congrès. Puis j'avais donné mon appui à Stephen Blainé. Puis là, il y avait des journalistes, évidemment, qui étaient là. Donc, ça a sorti. Puis M. Labeaume n'a pas aimé ça. Donc, quand j'ai eu croisé Régis à l'Hôtel de Ville, quand il a reçu Luc Robitaille, parce que j'étais co-président d'honneur avec Luc Robitaille pour cette conférence-là, et quand il est venu le temps de serrer la main à M. Labeaume, parce que M. Labeaume s'est fait attendre dans le salon de l'Hôtel de Ville, et quand il est arrivé, il faisait le tour du monde qui était là, donc on n'était pas tout seul. Puis M. Labeaume m'a serré la main, mais évidemment, je suis plus grand que lui. Tu vas comprendre que là, à un moment donné, il a levé les yeux pour savoir à qui il serrait la main, puis quand il m'a vu... là, il y a eu un relâchement de main assez assez sec.
OK. J'espère que tu l'as retenu.
Écoute, je l'ai lâché. Écoute, moi, j'ai beaucoup de respect pour Régis là-dessus, pour ce qui est de l'amphithéâtre.
Mais lui, il était fâché en raison des conservateurs.
Politiquement, il était fâché. Puis, pourquoi pas frapper sur un petit gars qui l'a aidé pour la construction de ton amphithéâtre. Mais tu sais, c'est correct, là. Je le prends pas personnellement. Moi, M. Labon, j'ai beaucoup de respect pour lui.
Bon, mais tu sais comment ça fonctionne, la politique?
Ouais, ouais.
T'es pas vraiment ami, là.
T'es
ami quand tu leur sers. Quand tu leur sers pas, t'es juste un individu parmi tant d'autres. Mais... t'as rencontré Luc Robitaille, une des meilleures paires de mains qu'on a vu passer dans la Ligue nationale de hockey.
Plus grand farceur des joueurs de la Ligue nationale d'ailleurs.
Exact. Ça a l'air que c'est un bon vivant. C'est vraiment quelqu'un qui jase avec tout le monde sans nécessairement se prendre pour Luc Robitaille, en fait. Là.
C'est le voisin d'à côté, Luc Robitaille. C'est le chum que tu aurais toujours voulu avoir. Des jokes, des expériences, des cas vécus de Luc Robitaille pendant une journée de temps, là, à te promener d'un bord et l'autre, à faire le tour des médias, rembarquer d'une limousine. Puis d'être avec Luc Robitaille pendant une journée de temps, là, c'était magique. Là, on s'entend. Quoi dire de plus? T'sais, Luc Robitaille, c'est un gars, premièrement, non repêché, qui a joué avec Gretzky, qui a joué avec Rob Blake. Ça a été un gars qui a joué, il est allé jouer à Détroit, il a joué un peu partout, il a joué avec les Rangers. Sérieusement, Luc Robitaille, c'est un bon vivant, oui.
Mais quand tu le rencontres, on m'a dit, parce que tu es le deuxième individu qui l'a rencontré, que je connais, là, il me parlait comme si c'était pas lui. Il me parlait comme si c'était mon meilleur ami, comme si j'avais aucune idée de qui il était, là. Puis ça allait bien.
Ce gars-là, tu sais, là, un passionné, on parlait tantôt de passion, là.
Ouais.
Tu sais, ce gars-là se prenait pas pour personne d'autre que lui. Puis il savait d'où il venait, ce gars-là, là. C'est un gars qui est proche de sa famille. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus de sa tête. Ce gars-là, probablement, c'est pour ça qu'il a fait aussi longtemps dans la Ligue nationale de hockey puis qu'il a réussi à percer un club dans la Ligue sans avoir été repêché. Ce gars-là croyait en lui. Puis justement, à cause de convictions qui étaient simples, simplement d'être correct avec tout le monde, à un moment donné, quand tu es gentil avec tout le monde, c'est peut-être pas tout le monde qui va t'aimer, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va accrocher puis qui va dire « Crime, lui, de l'allure, lui. » Ouais. Fait que, tu sais, Luc Robitaille, ça a été vraiment un beau, une belle rencontre. Vraiment, là, tu sais, sérieusement, prendre un drink avec lui... On était allé à l'époque, c'était où donc? Mon Dieu, on est allé dans un bar, tu sais, à côté du Rock Café, là, en arrière de la place Laurier, là. Il y avait un bar, là, c'était le, voyons, Tabarouette.
Je ne me rappelle plus. Ça va peut-être nous revenir.
On est allé prendre un verre là, lui et sa femme, tu sais, sérieusement. Ce gars-là reste à Los Angeles.
Est-ce que les gens le reconnaissaient?
Ben, je comprends. Tu te promenais, là. On s'est promené dans Saint-Roch sur le trottoir. J'ai une photo, je te montrerai ça tantôt. On se promenait sur le trottoir dans Saint-Roch. Moi puis Luc Robitaille à côté d'un autobus de la ville, là. Puis le monde arrêtait, là. On s'entend, là. À un moment donné, il avait envie de prendre un Tim Hortons. Fait que là, il demande au chauffeur de la limousine avec qui on était. « Hey, arrête ici, toi, Tim Hortons. » La limousine est arrêtée dans la cour du Tim Hortons, imagine-toi, là. Robitaille, il dit, c'est moi qui rentre, là. On n'est pas allé au service au volant, là, parce que de toute façon, une limousine, ça passe pas dans le service au volant. Il est débarqué de là, il est rentré au Tim Hortons. Y a-tu pensé, là? Le Tim Hortons était plein, là.
Ah, la Ligue du Vieux-Poix, ils ont tout regardé, ce gars-là. C'est Luc Robitaille.
Ben non, mais c'est parce que là, tu sors pas d'ici, toi, là. Tu t'appelles Luc Robitaille, là.
C'est clair.
Un autographe, deux autographes, trois autographes, une joke ici, un autre joke là, hey, salut, puis. C'est ce gars-là. Ce gars-là, il manque. T'sais, il est rentré au Tim Hortons sur Charest. Il est pas mal du fun.
C'est particulier quand tu vois ça. Moi, je l'ai vécu à beaucoup plus petite échelle. Là. Je m'étais parqué à la même place. On allait au party d'employés. Puis c'était Richard Martineau.
Oui.
Fait qu'on était sur Saint-Joseph. On jasait. Oui. Puis on s'en allait vers le bar où on avait notre party d'employés. Mm-hmm. Puis écoute, on faisait pas un demi-mètre là, avant que quelqu'un nous arrête là, pour dire hey, bonjour, M. Martineau, est-ce qu'on peut prendre une photo? Fait que c'était moi le cave qui prenait les photos. Là.
Ben, moi,
mais ça me faisait plaisir.
Le seul party que j'ai eu avec vous autres à l'époque dans l'autre vie, là, ben il y avait lui, Martineau, puis il y avait M. Arthur.
M. Arthur, c'est ça. Mais ça, c'était le party qui était à Sainte-Foy.
Exact.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le party dans Saint-Joseph, là, je m'en souviens toute ma vie, c'est parce que, écoute, on était à 3 minutes de marche. Ça nous a pris 1h30 à peu près.
Sûrement.
Se rendre au party,
oui.
Parce que les gens, ils ne s'attendaient pas à voir... Tu sais, Richard Martineau avec la coiffe et tout, là, une tête particulière, là, il ressemble un peu au bonhomme carnaval. Là.
Ben là, peut-être pas jusque-là, là, mais...
Mais tu sais, il n'y a pas une face comme tout le monde, Richard Martineau, puis sa coiffeur et tout.
Ben la télé, là, Yann, là, la télévision fait de grandes choses.
Ouais.
C'est le moindrement, souvent, la télévision, tu peux pas aller magasiner sans te faire dire bonjour ou tu comprends?
Puis pour les femmes qui nous écoutent, Richard Martineau est maquillé à télé, ce qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus laid en personne. Laissez-moi vous le dire.
Bon, ça, c'est toi. Là. Je te laisse ce bout-là. Moi, j'embarque pas là-dedans.
La marche bleue, le jour où tu as eu la marche bleue, combien de personnes se sont présentées là?
Écoute, moi, là, ce matin-là, de la marche, je me suis présenté. Premièrement, là, la veille, il faut se souvenir là, qu'il pleuvait à Sio. Ouais. Pendant qu'ils ont monté la scène sur les plaines d'Abraham, je me souviens, il mouillait à Sio. Je te dis, là, tu ne pouvais pas faire un pas sans en avoir plein tes chouclacs, là, tu sais. Fait que le lendemain matin, à 6 heures, j'étais présent sur les plaines. Il faisait hyper beau. Le ciel était bleu, d'un bleu... je sais pas, appelle-le la
azur,
couleur que tu...
Oh, un bleu azur.
Et voilà. Et vers 10h30, il y a un monsieur, Daniel Gélina. Je sais pas si tu connais Daniel Gélina.
Ben oui, Festival d'été de Québec.
Oui, monsieur Gélina vient me voir, puis il me dit, Mario, il dit, je sais pas si tu es au courant, là, mais il dit, les ponts sont jamés, puis il y a une attente de 1h30 au traversier. Fait qu'il dit, je sais pas si tu poses la question, là, mais tu vas avoir du monde. Te le dis, là, tu vas avoir énormément de monde ici aujourd'hui. Fait que, mais le chiffre qui est sorti dans le Journal de Québec le lendemain, c'était écrit 60 000, mais moi, je vais être conservateur, là. Je vais te dire qu'il y avait à peu près 50 000. Parce que ce que Daniel Gélina m'expliquait, c'est que dans la configuration du site des grands événements ici à Québec, c'est que lorsqu'il y a des spectacles, il y a beaucoup de... des restaurants, il y a beaucoup de choses qui bloquent l'accès sur le terrain, donc les toilettes, les restaurants, la régie qui est devant la scène, puis tout ça. Ça, il n'y avait pas ça à la Marche Bleue. Il n'y avait pas de régie, il n'y avait pas de grosses rangées de toilettes, si tu veux. Il n'y avait pas énormément. Il y avait un petit restaurant, c'est Philippe Laroche avec la cage au sport qui était là, d'ailleurs, cette journée-là. Donc, la configuration faisait en sorte que tout le monde était vraiment jam-pack et. Daniel Gélina m'expliquait qu'il dit, pour être certain, là, il dit 50 000. Mais le lendemain, on a parlé de 60 000 dans le Journal de Québec. Mais écoute, je sais pas, il y avait à peu près 50 000.
Mais qui s'est occupé de tout l'accueil et tout ça? Parce que toi, tu étais outside de ça. Là. Je veux dire, toi, tu étais chez vous, tu t'es dit, garde, moi, là, le retour des Nordiques, j'y crois, l'amphithéâtre, j'y crois, j'étais un passionné. Ouais. On va faire une marche pour montrer notre intérêt à la Ligue nationale de hockey. Il y a des gens qui t'ont approché nécessairement.
Totalement. Et ça, là, il y a eu tout qu'un travail d'équipe. Là. Dès là, que ça a commencé à grossir, là, il y a des gens qui m'ont approché pour la scène. C'est sûr que j'ai pas tout j'ai pas tout payé tout ça. Là. Il y a eu beaucoup de gratuité, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été versés par de l'argent discrétionnaire de différents députés dans la région de Québec, de la ville de Québec.
Mais toi, t'as pas sorti d'argent de tes poches, là?
Ben oui.
T'as sorti de l'argent de tes poches pour organiser une marche.
J'ai perdu 7000 $ dans cette aventure-là, moi.
T'es-tu sérieux?
Ben oui. Ouais, j'ai perdu 7000 $ dans cette aventure-là pour la simple et bonne raison que j'ai pas voulu donner, dans le fond, la tenue de l'événement à une corporation, comme je t'expliquais tantôt.
OK.
Donc, étant donné que c'est moi qui l'ai eu sur les bras, ben c'est moi qui s'est ramassé avec les dettes de ça. Puis, tu sais, j'étais un simple agent d'assurance, j'étais un simple citoyen à l'époque. Donc, on a mis ça sur la carte de crédit. Puis, sa carte de crédit, c'est pas du 2 %. Hein.
Du 11, peut-être?
Ouais, fait que ça a pris du temps avant de rembourser tout ça. Ça a été tough.
Mais je savais pas que tu avais dû payer de ta poche. Moi, j'étais persuadé que, ouais, tu sais, toi et les gens qui t'entouraient dans cet événement-là, il y avait peut-être des produits dérivés et tout ça. Ouais. J'étais persuadé que vous aviez fait un peu d'argent minimum.
Pis... Jamais.
Non.
Non, non, non. Non, non, c'est sûr que non. Ben, tu sais, il y avait, oublie pas, là, il y avait de la sécurité sur place là, cette journée-là, parce que Christy, ça en prenait. Il y avait une firme qui s'appelle Mercure Communication qui appartenait à Daniel Blouin à l'époque.
Daniel Blouin, oui.
Eux autres se sont occupés énormément des relations avec les médias. Ils se sont occupés de l'accueil, justement, de la production des cocardes là, pour faire entrer les joueurs, les personnalités qui étaient là. Les personnalités, d'ailleurs, avaient accès à l'arrière-scène d'où est-ce qu'on était, sauf les politiciens. Les politiciens auraient aimé ça, venir en arrière, puis sur le stage.
Prendre
là,
des photos.
Les
ben
Pauline
oui.
Marois de ce monde, les politiciens, monsieur, comment il s'appelait, le Duceppe à l'époque, qui était au bloc. Ces gens-là étaient là, mais ils étaient devant la scène. Devant la scène, là, avec le peuple. Là. Comme tout le monde, ils étaient là en tant que... politiciens.
Okay. Ça, c'est-tu toi qui avais décidé ça, que les politiciens n'allaient pas être là sur la scène? Ah,
Ouais. Moi, je voulais pas que ce soit politique, cet événement-là. Je voulais que ce soit partisan.
Il y en a-tu qui se sont essayés pareil?
Ben oui. On a eu des demandes d'accréditation de la part de tous les partis confondus, de tous les chefs, de tous les niveaux, provincial, fédéral. Ils étaient tous là, sauf M. Harper, tu comprendras. Les conservateurs n'étaient pas là cette journée-là. Là.
Non.
Non.
OK.
Non. Il n'était pas là.
Mais les politiciens n'étaient pas sur la scène, ils étaient sur le devant de scène, puis ils auraient aimé avoir accès à l'arrière-scène où les vedettes étaient là, puis ils n'ont pas pu y avoir accès.
Moi, ma réponse était, à tous les jours, vous avez l'occasion de parler aux médias, puis de parler de vous, de ce que vous avez à dire. Moi, cette journée-là, c'est pour les partisans qui veulent s'exprimer pour le retour d'une équipe de hockey à Québec, puis pour la construction d'un amphithéâtre. C'est tout ce que je... Moi, le mandat, c'était ça dans ma tête.
Ouais. Avec du recul, là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la marche bleue? Positif comme négatif, mais commençons par le positif.
Qu'à la gang, on peut tout faire.
À la gang, on peut tout faire. Quand on y croit, dis-moi.
Quand on y croit, quand, tu sais, moi, l'amphithéâtre, là, comme tel, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose, là, parce que si on avait à construire un amphithéâtre, là, d'ici 5 ans, là...
Ouais, ça coûterait une couille.
Tu sais,
deux.
Ben, probablement à deux. Puis, tu sais, 375 millions, mettons 400 millions que ça a coûté, là. J'ai vu passer des histoires encore la semaine passée, là, des nouvelles, là, qu'à Montréal, ils ont besoin du 300-400 millions, puis du 700 millions, là, t'envoies à tour de bras, là. Ouais. Donc, l'amphithéâtre, là, si on avait la reconstruire dans 5 ans, probablement qu'on serait pas loin du milliard, tu sais. Moi, je pense qu'à 400 millions, pour se donner... Premièrement, oui, c'est correct, là, la joke, là, il y a un club de juniors qui joue dans la théâtre, mais tu as des spectacles.
Oui.
Tu sais, t'as des spectacles de qualité, t'as des artistes qui acceptent de venir à Québec maintenant parce qu'il y a un amphithéâtre digne de ce nom. Donc, moi, je pense que c'est un beau leg pour Québec. Oui, l'amphithéâtre, l'équipe n'est pas revenue, là. Je le sais, là. Les gens qui me disent que je rencontre de temps en temps puis qui me disent « Ouais, mais les Nordiques sont pas revenus. Hey, cibole, ils m'apprennent une pas pire. » Sérieusement, ça me fâche d'entendre ça parce que moi, là, dans le fond, là, ce que j'ai fait... Tu sais, je pense pas d'avoir fait d'erreur, mais si tu fais rien dans la vie, tu peux pas en faire d'erreur. T'sais.
Exactement.
Moi, dans le fond, là, j'ai voulu autant que tout le monde là, que les Nordiques reviennent à Québec.
Mm-hmm.
Pour différentes raisons, les Nordiques sont pas là. OK? Mais on a un amphithéâtre. Si jamais un jour un jour, si jamais un jour, je sais pas moi, Gary Bettman s'enferge, il tombe en bas d'un escalier,
mais
puis
il y aurait encore parlé de ça cette semaine en disant que la Ligue nationale ne ferme pas les portes à Québec. Tu sais. Il veut, on dirait qu'il veut toujours entretenir comme l'espoir. J'ai l'impression des fois là, qu'il est en train de me faire une saignée. Tu sais, il me coupe juste une petite place où ça va saigner tout le temps, mais c'est goutte à goutte.
Mais Gary Bettman travaille pour des propriétaires qui veulent faire de l'argent.
Ouais.
OK. Puis les gens là à Montréal qui aiment ça être sarcastiques avec le fait que les Nordiques sont pas revenus à Québec, là, moi, je vais leur dire une chose. Si vous payez vos billets aussi cher pour aller voir une équipe aussi plate que ça, là, présentement puis depuis trop longtemps, là, c'est parce que justement, des équipes riches comme celle du Canadien participent à la péréquation des autres équipes qui sont pauvres dans cette ligue-là.
Ouais.
Comme les Coyotes, comme les Panthers, comme Columbus, comme plusieurs équipes dans la Ligue nationale de hockey, ben, la raison pour laquelle vous payez aussi cher pour aller voir votre équipe, là, c'est parce que Jeff Molson est obligé de faire un chèque aux autres propriétaires à la fin de la saison. Puis les joueurs, eux autres, là aussi, ils payent un escrow. Ils payent une redevance, dans le fond. Savais-tu ça qu'il y avait 17 % de leur salaire qui va justement à la péréquation?
Non, je savais pas du tout.
Donc, un exemple, un joueur qui gagne, disons, 1 million par année, paye, mettons qu'on le met à 20 % pour arrondir, là, va donner 200 000 $ sur son salaire. Et sur le 800 000 qui va rester, 10 %, donc 80 000 $ va aller dans une fiducie, dans un fidéicommis, pour être payé de ce salaire-là d'ici les 3 ou 4 prochaines, dans les 3 dernières années de la prochaine convention collective. Donc, les joueurs perdent au change, les propriétaires perdent au change, puis la facture est envoyée à qui? Elle est envoyée aux partisans, à celui qui achète le ticket pour aller voir son équipe de hockey. Le hockey de la Ligue nationale, la Ligue nationale de hockey, c'est pas le baseball majeur, puis c'est pas la NFL, là. Les revenus, là, au niveau des droits de télévision, puis les revenus au niveau de la merch, là, c'est pas comme les autres sports, comme la NBA, par exemple. Donc, la Ligue nationale de hockey fonctionne un peu démocratiquement avec les autres équipes qui ont de l'argent.
T'as-tu l'impression qu'un jour, advenant le cas où la Ligue nationale de hockey arrive à Québec, on aura, en tant que Québécois, là, les moyens de se présenter là dans les 40 matchs qui seront présentés à Québec? Quand on y pense, j'ai un ami, moi, qui a amené son gars, puis il voulait des bons billets. Puis il y a eu des bons billets, puis il n'y a pas eu le meilleur match qu'il pensait, mais il y a eu un bon match, puis avec la, tu sais, restaurant, tout ça, ça a coûté 800$. 800$ pour amener son seul gars au Canadien de Montréal. Je veux dire, qui va faire ça à Québec? Là? Moi, je veux dire, je gagne un bon salaire.
Mais je viens de te le dire.
J'ai trois jobs, là.
Mais Yann,
je vais faire quoi, c'ti?
Yann, je viens de te le dire. À Montréal, ça coûte ça.
Ouais.
Mais pourquoi qu'à Columbus, ça ne coûte pas ça? Parce que le marché n'est pas le même. Le marché de Québec et le marché de Montréal, c'est deux marchés différents. Tu ne peux pas comparer des oranges avec des clémentines.
Mm-hmm. Moi, les billets seraient moins chers ici?
Ben moi, c'est sûr que oui. Tu ne pourras pas demander à une population qui n'a pas... que c'est pas le même marché. Dans le fond, moi, je suis convaincu. Puis si c'est ça... Tant mieux. S'ils sont capables de remplir l'amphithéâtre en chargeant à 250$ du billet, tant mieux, mais j'en doute énormément. Pourquoi qu'à Columbus, les billets coûtent, je sais pas, moi, 45$ pour aller voir une équipe de la Ligue nationale de hockey qui va jouer contre Edmonton, Connor McDavid va être sur la glace aussi, là.
Mais je m'avance un peu, je vais te laisser prendre un peu d'eau, là, si tu le veux bien, mais je m'avance un peu. Peut-être que dans ces endroits-là, tu sais, l'amphithéâtre, sa fonction première, c'est pas d'accueillir une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey, c'est d'accueillir les shows qui vont passer par ces amphithéâtres-là, ce qui fait en sorte que les revenus des compagnies qui ont les clubs de hockey puis l'amphithéâtre sont plus élevés, donc ils peuvent se permettre peut-être de réduire les billets. Mais quand tu me parles de la péréquation, T'as absolument raison. Mm-hmm. Mais est-ce qu'à Québec, on pourra avoir ça? Je sais pas. T'sais, à Québec, on est déficitaire depuis qu'on a le centre Vidéotron. Du moins, c'est ce qu'ils nous disent. Fait que ce qui fait en sorte qu'on redonne de l'argent à Québécois.
Ben,
ce qui est hallucinant.
Québécois a négocié un contrat. Moi, je pense que Martin Tremblay... Martin Tremblay s'est occupé de négocier ce contrat de gestion-là avec la Ville de Québec. Et ce gars-là, là, si j'avais à choisir un gestionnaire, si j'avais eu besoin d'un gestionnaire, c'est lui. Je te le dis, là, ce gars-là a négocié tout qu'un contrat pour Québécois et en faveur de Québécois, c'est clair. Oui, la Ville de Québec avait besoin d'un amphithéâtre, mais, tu sais, je veux dire... Dans le fond, là, ils sont locataires de cet espace-là. Ils ont signé un contrat de gestion pour gérer l'amphithéâtre, c'est-à-dire, bon, les spectacles, les remparts sont d'ailleurs... Je pense qu'ils sont même d'ailleurs...
Ils sont copropriétaires.
Copropriétaires des remparts. Ouais. Tu sais, moi, je pense que le deal, là, le grand gagnant de ça, là, c'est Québécois, mm-hmm. dans cette histoire-là. La ville aussi, mais tu sais, je veux dire, c'est une dépense, là, un amphithéâtre. Là. Ouais. Un amphithéâtre, le public, un investissement, une infrastructure publique, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Donc, c'est dans le fond, ça fait partie là, de l'ameublement de ta ville, puis c'est comme un parc. Un parc, ça coûte cher, là. Ça rapporte pas grand-chose, un parc, mais si tu construis un parc, ça coûte de l'argent. Donc, l'amphithéâtre, oui, c'est à une plus grande échelle, je comprends ça. Sauf que ça te permet d'aller voir justement des spectacles que tu n'aurais probablement jamais pu voir si on avait encore le Colisée. Tu sais, c'est, moi, je le vois comme ça.
Oui. Je te pose la question comme ça. Est-ce que c'est vrai les chiffres qu'on avance? Tu sais, pour avoir un club de hockey en Québec, mettons le retour des Nordiques, on va les appeler les Nordiques, là, mm-hmm. ça prendrait 1 milliard, 1,2 milliard pour avoir ce type de club-là?
Bien, ça dépend si on passe par un transfert ou si on passe par un déménagement. Ça dépend si c'est une expansion ou un transfert d'une équipe. T'sais, une expansion va coûter très cher, puis l'achat d'un club, ça va coûter très cher. On se rapproche, c'est clair, plus que le temps va passer, plus qu'on va se rapprocher du milliard. Parce que ta pièce là, de 1980, là, aujourd'hui, elle ne vaut pas grand-chose.
Non.
Mais dans le temps, une pièce, là, tu pouvais aller te promener longtemps avec des bonbons. Tu avais du gaz pour une journée.
Oui. Mais pour avoir un club de la Ligue nationale de hockey, bon, ça vient avec les joueurs, ça vient avec le club, la bannière, bon, les salaires et tout ça. Mm-hmm. Mais ça te prend aussi du staff autour. Ouais. Ça te prend un club école.
Mm-hmm.
Tu le mets où, ton club école?
Ouais.
Tu le mets dans le Colisée Pepsi?
Moi, écoute, j'avais des discussions avec Yvon Penneau à ce niveau-là. Là. Ouais. À ce moment-là, là, je pense qu'on parlait de l'achat d'un club aux alentours de 600 ou 650 millions. Mettons là, qu'on mettait ça à 650 millions. Là,
ouais.
Compter justement de payer le staff juste pour commencer à ouvrir les lumières, débarrer les portes, mettre du chauffage, puis tout ça. Là. Donc, le staff, tout ce qui vient avec. Là, parce que là, tu as des boutiques là, qui vont vendre de la merch, tu vas avoir du monde qui vont travailler au bar, tu vas avoir du monde. Ça coûte exactement, ça coûtait à l'époque plus que 1,3.
1,3 milliard.
Avec le club école, parce que là, ça va te prendre du staff pour runner ton club école.
Ouais.
Tu sais, ton club école. Aussi, c'est une organisation, tu as des recruteurs à payer, c'est pas juste les joueurs, puis les soigneurs, puis les remplisseurs de gourdes d'eau, là. C'est du monde qui gravite autour d'une équipe, tu as les thérapeutes à payer, ça finit plus.
Ah, si tu me décourages!
Ouais, c'est poche!
Mais 1,2, ouais. 1,3, puis...
Ça, c'est il y a une dizaine d'années à peu près, là.
C'est ça. Mais qui a les reins assez solides au Québec pour nous amener un club? Est-ce que Québécois aurait les reins assez solides? Je sais qu'ils déclarent pas super de profit ces temps-ci.
Il y a un Montréalais qui est propriétaire hein, du Kraken de Seattle. Mitch Garber.
Ouais.
Mitch Garber est un des copropriétaires du consortium de propriétaires qui possède cette équipe-là à Seattle. Il y a du monde au Québec qui ont de l'argent. Là. Moi, là, les Monsieur Desmarais, là, il y a eu un intérêt pour les Sénateurs d'Ottawa à un moment donné là, pour acheter des Sénateurs. Ça ne s'est pas produit, mais... Est-ce que Pierre-Carl Péladeau, là... Moi, Pierre-Carl, là... Et...
J'ai l'impression que c'était plus une affaire de Julie que de Pierre-Carl, moi.
Non. Moi, c'est... Pierre-Carl, là, je pense qu'il est honnête dans le fait qu'il aurait aimé ça revoir une équipe à Québec.
Ouais.
Il a la flamme... Lui, il a une flamme très nationaliste. Hein. Je sais pas si tu te souviens, là, mais pendant, justement, la quête d'une équipe à Québec, là... Un dimanche matin, j'étais à Montréal avec ma fille et ma blonde. On s'en va magasiner. Puis là, les Coyotes de Phoenix, ça allait pas bien. Puis on suivait les conseils de ville de Glendale à tous les soirs. On se couchait à 1h30 du matin pour écouter les maudits votes ouais. de cette gang de timbrés-là. Puis Pierre-Carl a décidé de se lancer en politique.
Ouais.
Moi, ça, là...
Avec le poing en l'air.
Moi, j'ai toujours dit... Je respecte énormément les gens qui ont des convictions politiques puis qui les expriment sur la place publique. Mais est-ce qu'un gars comme Pierre-Carl Péladeau, dans le contexte où il était à la quête d'une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec, contre une tonne d'anglophones de l'Ouest et de Montréal, donc Jeff Molson et les Thompson dans l'Ouest, est-ce que c'était un bon move de sa part de le faire?
C'était pas stratégique. Là.
J'ai énormément de respect pour je répète, là. Moi, j'ai énormément de respect pour quelqu'un qui a des convictions politiques puis qui va s'engager en politique, mais de le faire de façon publiquement dans le contexte où est-ce que Pierre Capelado était placé avec Gary Bettman et la Ligue nationale de hockey, je suis pas certain que c'était un bon timing.
Okay. L'avais-tu rencontré, Pierre Capelado?
Oui.
Ouais.
Ben oui.
Puis lui, tu le sentais extrêmement déterminé par le retour des Nordiques. Parce que moi, j'avais plus l'impression que c'était l'idée de Julie. Tu sais, les affaires de Montréal-Québec.
Ouais.
Tu sais, quand ils ont fait ça là, avec un club de gars tu sais, à Montréal, un club de gars à Québec, des entraîneurs qu'on connaissait, tu sais, ben Patrice
oui.
Brisebois,
ben oui. La grosse chicane
Bob Hartley.
La grosse chicane, là.
Hey, tu feras pas ton... Ah, c'était n'importe quoi, mais je veux dire, j'avais l'impression que c'était ses idées à elle.
Ça a fait de la bonne TV, en tout cas.
Ben vraiment, tu sais, moi, je veux dire, c'était pas le style de hockey que j'aimais, mais je souhaitais tellement que Québec gagne.
C'était fou, hein? La rivalité, là, Yann, là, je te le dis, la rivalité, là, si y avait une équipe à Québec, je te le garantis. Ouais. Je te le garantis là, qu'à Montréal, là, on se battrait pas pour avoir Connor Bedard à la fin de la prochaine saison. Je te le dis, là.
Mais là, on essaie de se battre pour l'avoir, c'est ce que tu nous dis?
Ben, en tout cas, je sais pas, je regarde les games de ce temps-là, puis je me dis, tu sais, même à Toronto, moi, j'ai des amis à Toronto parce que j'ai déjà travaillé dans ce coin-là. Il y a des amis qui m'ont dit que la semaine passée, le Rocket de Montréal avait battu les Maple Leafs.
Ouais.
Fait que, tu sais, sérieusement, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'équipe bien, là. Je comprends là, qu'on est en reconstruction, mais il faut accepter le fait qu'on est en reconstruction.
Garde-toi des arguments pour après la pause. Moi, t'écœurerais encore avec le Canadien de Montréal. T'as de grandes connaissances au niveau du sport, puis je vais essayer de les exploiter. Il nous reste un petit peu de temps. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, on fait une courte pause. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Merci d'être là. Comme invité ce soir, Mario Roy. On dira pas que c'est le gars de la marche bleue, mais c'est le gars qui a initié la marche bleue. Mais c'est toujours Mario Roy. Mario Roy, l'individu. On revient!
Marceau, le soir.
L'année 2023 commence et si vous portez des lunettes, c'est votre année chanceuse. Pour lancer 2023, Gréchiska fait une offre géniale. 20 000 montures toutes réduites à 23 $ chacune à l'achat de la paire complète. Jacinthe Laurent, opticienne, prenez rendez-vous ou apportez votre prescription chez Gréchiska.
La gestion des repas simplifiés? Oui. Avec Tout Cuit qui vous offre de savoureux repas prêts à manger, livrés gratuitement de leur cuisine à la vôtre sans abonnement. Choisissez vos boîtes repas thématiques ou vos plats individuels et c'est réglé. Toutcuit.ca, une division du groupe Je reçois.
La Cité Jardin du Grand Portneuf offre des terrains boisés en bordure de la rivière et du golfe. Situation géographique enviable au cœur de la nature pour construire votre maison de rêve avec ou sans opportunité de location. Découvrez-nous au citéjardingrandportneuf.ca.
Plus de temps en famille, consommez moins, maximisez notre bonheur, c'est des résolutions faciles à réaliser avec un Rogue 2023 du groupe Pocket. La place pour toute la famille, même le chien, une résolution de cocher. À peine 6,7 litres aux 100 km sur route, une autre de cocher et un maximum de bonheur au volant avec le meilleur VUS de sa catégorie selon les journalistes auto. Venez choisir votre Rogue 2023 prêt pour livraison pendant l'événement d'adrénalinologie chez Saint-Nicolas Nissan, Montmagny Nissan et Pocket Nissan.
Votre salle de bain a besoin d'amour. Chez Léopold, on a tous vos produits pour faire votre salle de bain de rêve. Du couvre-plancher à la plomberie jusqu'à la peinture. Léopold, ouvert tous les samedis de 9h à 13h. Léopold, eau et déco, avenue Taniata, Lévis.
Maquis que c'est pas cher! En janvier, profitez d'une promotion sur tous les maquis chez Yuzu. 1,25 $ l'unité à l'achat d'un maquis 5 morceaux. C'est la parfaite raison pour oser et en tester plus d'un. Allez-y, faites-vous plaisir. Yuzu Sushi, c'est toujours bon.
Chez Construction Atypique, on travaille en collaboration avec le client dans la bonne humeur et surtout, toujours dans le but d'obtenir son entière satisfaction. Pour tout type de construction ou des projets de rénovation, faites confiance à une équipe humaine qui compte plus de 20 ans d'expérience. Visitez constructionatypique.com.
Votre enfant fera bientôt son entrée au préscolaire ou au primaire? Joignez-vous à la famille de l'Externat Saint-Jean-Bertemance, un milieu chaleureux, sécuritaire et stimulant qui déborde d'activités parascolaires pour tous les goûts. ExternatSJB.com, la petite école des grands moments. Vous pensez à changer d'appartement? Vous payez trop cher et vous manquez de services? Logibourg a le logement parfait pour vous. Des logements au meilleur rapport qualité-prix situés dans des secteurs de choix et surtout un service à la clientèle à la hauteur. Trouvez le logement parfait au logibourg.com. Parce que votre première destination débute chez un professionnel en santé voyage,
Infirmia. Consultations voyage, vaccination, prescription pour malaria, diarrhée et mal des montagnes. Prenez rendez-vous. Infirmia.com.
Veilleux Société d'avocats, avocats en droit des affaires, immobilier, construction et litiges civils, tient à souhaiter ses meilleurs vœux pour 2023 à sa distinguée clientèle. Particulier ou entreprise, Veilleux Société d'avocats peut vous aider. Vos intérêts sont au cœur de leurs préoccupations. Pour en savoir plus, veilleuxavocats.ca. Chez Medicaction, vous avez accès à une clinique de gestion de poids. Notre équipe de professionnels évaluera vos options dans l'objectif d'atteindre une perte de poids réaliste à long terme qui améliorera votre santé. Medicaction AXION.com.
Tu achètes encore tes cartouches d'encre dans les grands magasins? Viens faire un tour sur encre2g.com et compare nos prix.
Nos cartouches sont 100% compatibles avec les imprimantes et beaucoup moins chères qu'ailleurs.
Livraison très rapide et abordable. Encre 2G, ancrée jusqu'au bout des doigts.
Mobile Punch, l'application numéro 1 pour la gestion des feuilles de temps. Fière de l'augmentation de 40% en 2022, c'est maintenant plus de 1600 compagnies qui utilisent Mobile Punch. Améliorez-vous aussi votre productivité et sauvez temps et argent. Faites comme nos 35 000 utilisateurs. Passez à Mobile Punch.
Une douleur inattendue vient gâcher votre journée? Essayez Génacol Action Rapide, une nouvelle alternative naturelle pour soulager rapidement la douleur. Génacol Action Rapide agit comme un analgésique pour réduire temporairement vos douleurs musculaires et articulaires. Il est cliniquement démontré qu'il soulage l'intensité des douleurs musculo-squelettiques sévères en seulement 3 heures. Profitez-en! Génacol Action Rapide est en promotion chez Brunet jusqu'au 1er février.
Génacol, tu me fais du bien!
Allô! C'est bien trop grand ici.
Votre maison ne correspond plus à vos besoins. Ça arrive. C'est là que l'équipe Étienne Lessard Courtier Immobilier Remax entre en jeu. Une expérience solide, des conseils vraiment pertinents. Pour vendre ou acheter rapidement, étiennelessard.com.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est... Ça, c'est...
Boulevard.
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On en aurait pour deux heures, Marceau, c'est ce qu'il vient de me dire. Merci d'être bien branché sur Boulevard 102 à Québec. On est avec Mario Roy ce soir. On placote. Puis Mario, ben, il trippe sur le sport. Il suit ça pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec Montembeau? Jake Allen, on fait quoi? Moi, je garderais Montembeau parce qu'il t'en donne pour ton argent. C'est un gars qu'on n'a pas vu arriver à Montréal et tout d'un coup, commence à faire sa place. Il sent le caoutchouc possible.
Oui.
Et pas comme pas possible. Puis là, Jake Allen revient dans le décor. D'ailleurs, je pense que ce soir, il va être là. Là, il va être devant le filet. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est une erreur de Martin Saint-Louis de le mettre là. Là, tu vas m'ostiner. Tu vas me dire, n'est pas une erreur.
Ben non, c'est pas une erreur. Martin Saint-Louis, là, avec les gars, là, Martin Saint-Louis, il sort pas du bois, là, lui, là. Et ce gars-là.
Il était coach, puis oui, là, lâchez-moi, là.
Il a pas été repêché, ce gars-là. Hein.
Exactement.
Il a fait la Ligue nationale.
Ouais.
Hein, c'est bizarre.
Un gars déterminé.
Ouais, tout à fait. Un gars passionné, un gars déterminé, mais. Tu sais, Jake Allen, Montembeau, on dira ce qu'on voudra, on se battra là, jusqu'à demain matin, là, c'est deux numéros deux, là.
Okay? Oui.
Ben, fait que des numéros deux dans la Ligue, il y en a partout. Montembeau, c'est un petit Québécois, ça?
Oui.
Bon, ben moi, Montembeau, là, je l'aime bien, moi. Mais comme numéro 2. Soyons patients. Ouais. Tu sais, moi, je pense que...
Je veux dire, ses stats sont meilleurs qu'Allen. Échanger Allen, ramasser un choix de deuxième ronde, merci, bonsoir.
Oui, mais moi, je pense que la patience est de mise avec cette équipe-là. Quand même que tu y recherches un bon gardien de but. Mettons, là, un Carey Price, là. Mettons que tu es un Carey Price, là, puis tu l'amènes à Montréal.
Aller chercher un bon gardien de but, là.
Ben oui, mais tu vas chercher un bon gardien de but. Pourquoi? Pour perdre?
Ouais, je sais pas. Je ne pense plus que le futur des équipes de hockey dans la Ligue nationale, c'est de commencer à faire comme le Canadien a fait dans les dernières années, c'est-à-dire construire par en arrière, alors que toutes les autres équipes sont construites par en avant.
Ben moi, si tu avais à me donner le choix, mettons qu'aujourd'hui, on déconstruit toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, puis tu me dirais, Mario, le premier choix que tu prendrais, là, ce serait qui? Moi, je te le dis, là, le premier choix que je prendrais dans toute la Ligue nationale de hockey... Non, c'est pas Connor McDavid. Non, c'est pas Austin Matthews. Ça serait Cale Makar à Colorado.
Makar, ouais.
Ouais.
Un défenseur.
Il a 23 ans, déjà un Norris dans les poches, une Coupe Stanley de signé.
C'est une machine de hockey.
Ce gars-là, là, c'est tu sais, moi, je te dirais, Colin, je le compare à qui? À Raymond Bourque. C'est un quart arrière. Ce gars-là, c'est un pilier, autant en attaque qu'en défensive. Ce gars-là plaque. C'est une première passe extraordinaire. Le gars, je vous le dis, c'est un magicien. Le gars, là, s'il y avait une aiguille et du fil dans les mains, il pourrait te monter quelque chose en macramé d'extraordinaire, mon cher Marceau. Ce gars-là, ce serait mon premier choix. Moi, ce serait vraiment lui, mon premier choix.
Ouais. Ouais. Mais pour ce qui est du Canadien, moi, Harlan, peut-être qu'on le fait garder les buts pour le mettre en valeur, là, pour dire, ben, regarde, il était blessé, on le remet.
La fameuse vitrine.
Ils vont le mettre dans la vitrine, puis ils vont l'échanger. Moi, je pense que ça va être contre un choix de deuxième. Je pense que tu peux avoir quelque chose de bon pour Jake Harlan, mm-hmm. mais laissons les gens qui s'expriment bien sur la glace. T'sais, moi, ce que j'ai aimé mm-hmm. de Martin Saint-Louis, il y a de ça quelques matchs, je me rappelle pas contre qui il jouait, mais Cole Caulfield avait scoré deux buts ce soir-là, puis on gagnait 4-2. Mm-hmm. Et Caulfield venait de finir son tour. Il restait comme 4 minutes. Puis on savait que de l'autre côté, l'équipe allait retirer le gardien. Puis Saint-Louis a remis Caulfield mm-hmm. Sur le jeu en sachant qu'il n'y avait pas de gardien à l'autre bord pour qu'il puisse faire son tour du chapeau.
Ben oui.
Ça fait juste me dire que Saint-Louis est capable d'en donner à ceux qui en donnent.
Ce gars-là est passé par là. Ce gars-là connaît la signification des gestes qu'il va poser avec chacun des joueurs, ouais. à chacun des stades qui sont, que tu sois une recrue, un vétéran, un leader dans l'équipe. Martin Saint-Louis sait frapper sur les bons clous au bon moment. Moi, je pense que ce gars-là, on dira ce qu'on voudra, parce qu'il va être critiqué, Martin Saint-Louis.
Ben oui,
là.
C'est clair.
Martin Saint-Louis, là, je vous le dis, là, d'ici 2 ans maximum, là, peut-être 3 max, il sera probablement dans toutes les lignes ouvertes que tu peux pas nommer, ces plateaux de télévision, de RDS, puis name it, là, ils vont probablement tous le critiquer. Martin, c'est le cycle d'un coach. Malheureusement, ce gars-là n'aura plus la chance de marquer des buts dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est sur lui qu'on va devoir frapper. Comme on a frappé pour tous les anciens coachs avant qui ont passé par là, avec l'équipe qu'on lui a donnée dans les mains, qu'on leur a donnée dans les mains, c'est le coach qui va subir encore une fois. Mm-hmm. Puis Martin Saint-Louis va connaître probablement une très grande carrière en tant qu'entraîneur dans la Ligue nationale de hockey.
Ah oui?
Moi, je pense que je suis convaincu. Donne une équipe là, contender pour la Ligue, parce que la ligne est très mince entre faire les séries et gagner la Coupe Stanley dans la Ligue nationale de hockey. Là. Donne une équipe qui a du bon sens à Martin Saint-Louis. Je te le dis, ce gars-là va pouvoir aller très loin parce qu'il sait par où qui est passé, puis comment on gère une équipe de hockey. Il était dans le vestiaire, il a entendu parler des joueurs, puis pas il y a 15 ans, là, pas à l'époque des Dardiecs, c'est pas dans le temps de Michel Bergeron, là, c'est ouais. maintenant, là, il n'y a pas longtemps, parce que la génération d'aujourd'hui des joueurs, elle n'est plus la même qu'elle était dans les années 80 et 90, là. Ça l'a changé le hockey. La relation entre les coachs et les joueurs n'est plus la même non plus.
T'sais. Non, pis mais il n'est pas, si vieux que ça non plus. T'sais, quand il embarque sur la patinoire, mm-hmm. il pourrait facilement compétitionner avec des gars de 4e, 3e puis 2e trio. Là.
Plusieurs défenseurs du Canadien qui trouveraient ça tannant de voir arriver Martin Saint-Louis à la glace.
Fait que j'imagine qu'ils sont peut-être plus portés à écouter un individu comme ça, qui est un entraîneur, mais qui s'est patiné puis qui connaît, mm-hmm. qui connaît le show.
Ouais.
Mais il y a du bon potentiel chez le Canadien de Montréal. Je pense à Cole Caulfield. Moi, je le trouve un peu petit. J'ai l'impression qu'en série, ça va peut-être être un peu plus difficile pour lui. Il va se faire braser comme pas possible. Écoute, il est à hauteur des coudes des défenseurs, l'autre bord. Mm-hmm. Fait que j'ai peur qu'il se fasse assommer. Suzuki.
Un peu comme Gallagher. T'sais. Gallagher, ouais. c'est des gars qui doivent se battre constamment contre eux-mêmes là, pour être capable de continuer de travailler dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu ressors de là avec des bleus. Puis là, mais tu vois, Caulfield, il va être sur la ligne de côté pendant un sacré bout.
Oui, puis t'as-tu l'impression que c'est une décision stratégique, ça, de la part du Canadien?
C'est une bonne décision. Moi, je pense que c'est de présenter. Ouais. un diamant, de continuer de le garder en santé parce que c'est le futur. Là. Soyons patients. Moi, je pense que cette équipe-là, d'ici...
Mario, on dirait que je sais pas ce que je veux. Parce qu'à chaque fois où je regarde le Canadien évoluer, je souhaite qu'il gagne, mm-hmm. mais maudit que j'aimerais ça qu'il repêche Connor Bedard.
Ben, c'est ça. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que là, le choix qu'il faut que tu fasses, c'est que...
C'est un ou l'autre.
Ben, dans le fond, là, c'est un peu du gambling que tu fais. Là. Si tu dis, OK, Caulfield, on le ramène, puis go, 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 on pousse la machine, puis tu le scrapes au bout de, je sais pas, moi, dans 2 mois, il est scrap, puis tu hypothèques sa santé de joueur de hockey pour, je sais pas moi, le reste de sa carrière, t'es mieux d'attendre un peu parce que je pense que la lumière est plus loin qu'on pense. Là. Je veux dire, moi, je pense que le Je pense que la levée du jour pour le Canadien, c'est pas pour demain matin. Moi, je pense que ça va prendre une petite étincelle. Puis oui, c'est vrai que Connor Bedard pourrait amener quelque chose de bon. Puis là, ben, le Canadien va-tu bouger là, à la limite des transactions? Je pense que oui. Il va y avoir des joueurs dans la vitrine. Ils vont être vendeurs, acheteurs. Moi, je pense que la direction sait où est-ce qu'elle s'en va. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup plus confiance en l'état-major du Canadien actuel qu'à l'époque de. Comment il s'appelle, donc, M. Bergevin?
Il est déjà oublié. Okay. Hey, c'est la dernière chose qu'on jase oui. À soir. Je vais te libérer par la suite, mais
yes.
Crée-moi que je vais te rachaler pour que tu reviennes faire ton tour. Je pense que les auditeurs ont trippé comme pas possible à t'entendre. Jack High, t'en penses quoi de cet individu-là qui est sorti de nulle part? T'es chez Costco l'année passée.
Quelle belle histoire.
Il arrive chez le Canadien de Montréal, c'est un bœuf. Il n'a aucun objectif, c'est-à-dire de faire sa game à lui, de tirer au filet, d'essayer de faire le maximum pour bien défendre sa zone. C'est un beau joueur à voir évoluer.
Je comprends. Moi, Jack High, là, sérieusement, là, des gars comme ça, là, le Canadien, s'ils peuvent en ramasser... Hey, je suis en train de parler là, pour...
Eh oui, c'est ça.
Je suis en train de dire que le Canadien doit avoir une meilleure équipe. Je les haïs pour mourir. Là,
je sais, pas de c'est ça, je t'achale avec
ça. Je n'haïs pas les joueurs. Moi, dans le fond, ce que j'haïs, c'est la fonte journalistique autour qui est aussi partisan que mon oncle Tancred d'esprit qui dormait pas de la nuit quand les Nordiques les battaient dans le temps. T'sais. Sérieusement, moi, Jack High, c'est une belle histoire. Des joueurs comme ça là, qui sortent de nulle part, pas repêchés. Des gars là, qui sortent de nulle part. Ce gars-là jouait quoi? Midget 2C il y a trois ans?
Ouais.
Sérieusement, ce gars-là, c'est un beau modèle, c'est une belle inspiration. J'ai envie de penser que le Canadien a... Tu sais, des fois, là, tu